Voici le journal de Christelle Rebière. Bonjour Christelle.
Bonjour Eric, bonjour à tous.
Avec à la une ce matin, un parfum de muguet, mais surtout de politique en ce 1er mai. Première démonstration de force pour les syndicats sur les salaires ou sur les retraites. On va y revenir à 8h20 avec notre invité Yves Verrier, le secrétaire général de Force Ouvrière. Les autres titres, Christelle.
Deux morts et un disparu en Guadeloupe. Il est tombé en quelques heures plus d'eau que lors du cyclone Maria en 2017. Dans ce journal, nous irons aussi du côté de Boutcha, près de Kiev. De nouveaux corps ont été retrouvés dans une fosse commune, des hommes exécutés après avoir été torturés. 43 254, c'est le chiffre du jour, le nombre record de spectateurs qui ont assisté à un match de foot féminin hier soir au Parc des Princes. Et c'est Lyon qui s'est qualifié aux dépens du PSG pour la finale de la Ligue des Champions.
France Inter.
Il n'y aura pas eu d'état de grâce. Une semaine après la réélection d'Emmanuel Macron, le troisième tour social commence symboliquement aujourd'hui avec les défilés du 1er mai. Entre le pouvoir d'achat malmené par l'inflation, les salaires et la réforme des retraites à suivre, des cortèges sont attendus dans toute la France. L'intersyndicale CGT, UNSA, FSU et Solidaires appellent à manifester, mais il y aura aussi beaucoup de jeunes, lycéens et étudiants. C'est le cas à Lille, Cécile Bideau.
Neil a 22 ans, étudiant à Sciences Po Lille en quatrième année, il n'a pas été élevé dans une famille militante. Mais après s'être mobilisé en 2018 contre Parcoursup, puis en 2019 contre l'augmentation des frais de scolarité pour les étudiants étrangers, il a franchi le pas et il a choisi Solidaires étudiants. Pour lui, syndicalisme et jeunesse peuvent aller de pair.
Les gens ont plutôt l'idée de la CGT, du vieux syndicaliste qui était au PC, qui a tout connu, mais au niveau étudiant, ça marche pas si mal que ça. Nous, on a énormément d'informations et d'aides à apporter aux étudiants qui sont pour beaucoup à galérer, beaucoup à être précaires, beaucoup à ne même pas connaître leurs droits. Ils voient bien l'utilité de notre militantisme.
Aujourd'hui, Neil défilera derrière une banderole. La précarité tue, la solidarité fait vivre. Après la réélection d'Emmanuel Macron, il croit à un troisième tour social porté par les jeunes.
Il y a beaucoup d'étudiants qui ont été, je pense, très déçus par les nouvelles élections et qui ont été très déçus par Macron pendant 5 ans. Et donc, ils sont en train de s'imaginer qu'ils vont devoir se retaper encore 5 ans de Macron. Ça commence à leur monter un peu à la tête, quoi. Les syndicats en général l'ont mis en avant cette date du 1er mai comme la première date de mobilisation contre Macron. Et je pense que les étudiants ont tout à gagner à s'immobiliser.
L'un des prochains combats de Neil et de son syndicat, ce sera de maintenir les repas à 1 euro pour les étudiants boursiers à la rentrée prochaine.
Et le cortège partira à 10h ce matin à Lille, 14h30 à Paris pour un classique République-Nation, avec notamment des figures politiques de gauche, Jean-Luc Mélenchon, l'écologiste Julien Bayou, le socialiste Olivier Faure, trois hommes qui n'ont pas réussi pour l'instant à se mettre d'accord sur un programme commun en vue des législatives. La date butoir, en principe, c'est ce soir. En ce 1er mai, le SMIC indexé sur l'inflation augmente de 2,65%, ce qui représente une hausse de 34 euros net par mois, tout comme l'indice minimum de traitement des fonctionnaires. Les prestations sociales, elles, sont revalorisées de 1,8%. Le bouclier tarifaire est étendu au logement collectif pour endiguer l'inflation sur le prix de l'énergie. Ça concerne 5 millions de foyers supplémentaires. À noter aussi qu'on pourra désormais payer ses billets de train avec des chèques vacances sans passer par le guichet de la gare. Et la tradition de la fée clochette sera respectée. Tout le monde a le droit de vendre du muguet aujourd'hui en petite quantité. Mais c'est aussi et surtout l'occasion de faire plaisir avec ce porte-bonheur. Parole d'Avignonnet.
J'achète du muguet pour offrir et on m'offre du muguet.
En fait, c'est ma mère qui offre du muguet. En général, on mange ensemble et puis c'est elle qui offre le muguet. Ouais.
Tous les ans, c'est systématique. J'en achète pour mes voisins, pour des gens de la rue et moi, on m'en offre.
Plutôt en pot, voilà, qu'on puisse le replanter éventuellement, mais bon, après d'une année sur l'autre.
C'est beau, ça sent bon, ça évoque le printemps.
J'achète du muguet pour le 1er mai parce que ça porte bonheur.
Je suis gâtée.
Ça s'enracine dans ces traditions populaires. Il y a le muguet, il y a les crêpes, il y a un petit peu tout ça.
Allons-y, on est en direct à l'antenne.
J'ai un reportage de Jérôme Renaud de France Bleu Vaucluse, pardon. En Guadeloupe, les pluies diluviennes ont fait deux morts et un disparu. Il est tombé 300 mm d'eau en quelques heures. Les deux victimes, deux hommes dont l'un âgé de 61 ans, ont été retrouvés dans leur véhicule. Un homme de 30 ans est porté disparu. Plus de 80 pompiers ont dû être mobilisés. Les explications du colonel Félix Anténor Abazac, directeur du SDIS de Guadeloupe.
Nous avons eu 35 impliqués et en particulier surtout des personnes qui étaient bloquées par les eaux sur des routes et qui étaient bloquées dans leur véhicule. Je crois que tout le monde a été surpris, hein, mais c'est vrai que c'était assez surprenant et surtout très localisé, pendant quelques heures et au même endroit. Il est tombé autant d'eau pendant la nuit que pendant le cyclone Maria de 2017. Au niveau, par exemple, de la ville de Pointe-à-Pitre, je pense qu'après 1 mètre d'eau, 1 mètre 50 d'eau, il y aura beaucoup de dégâts, je pense. Voilà. Et ainsi, même chose au Gosier. On a aussi eu des éboulements sous les routes. Au fur et à mesure, on a connu quand même une certaine décroissance, une décroissance qui s'accélère d'ailleurs actuellement. Au fur et à mesure, on va désengager nos moyens. Et simplement, on continue quelques reconnaissances. Effectivement, il y a encore des véhicules immergés. On va voir à l'intérieur, etc., s'il n'y a pas de victimes.
La situation s'est calmée. La Guadeloupe est repassée en vigilance jaune. En Ukraine, un premier groupe de civils a pu quitter cette nuit le complexe industriel d'Azovstal, dernière poche de résistance à Mariupol, une ville quasiment détruite. Hier, dans la banlieue de Kiev, 3 nouveaux corps ont été découverts dans une fosse commune à Boutcha, ville symbole des exactions russes. 3 hommes qui avaient été torturés avant d'être exécutés. Là-bas, les habitants continuent d'enterrer des corps. Chaque jour, on creuse de nouvelles tombes. Reportage de nos envoyés spéciaux Fabien Gosset et Farida Noir.
À la morgue de Boutcha, Lilia va bientôt pouvoir récupérer le corps de Yaroslav, 40 ans. Alors que les Russes sont dans la ville, son fils prend son vélo. Il ne devait en avoir que pour quelques minutes. Il n'est jamais revenu. C'est un homme qui le trouve près de la gare et l'enterre dans sa cour.
Il m'a raconté comment mon fils a été tué. Des Russes ont tiré sur ses jambes. Ensuite, ils lui ont demandé de se mettre à genoux. Il a crié « J'ai mal, je ne peux pas » et ils lui ont tiré dans la tête. C'était un musicien, un guitariste. Lui, il disait « Moi, je vivrai longtemps, jusqu'à 80 ans. J'ai un autre fils et c'est pour lui que je vis maintenant. »
Au cimetière de Boutcha, 3 enterrements ont lieu en même temps. Une mère, une tante, un fils, celui de Volodymyr. Le père regarde les fossoyeurs creuser la tombe de son enfant.
Il a reçu un éclat de roquette dans la tête. Je ne peux pas dire ce que je ressens. Il est impossible de l'accepter. Mais la vengeance, c'est le mal aussi. J'aurais aimé que ça n'arrive jamais. Mais Dieu voit tout. Et il faut continuer à vivre car j'ai mes petits-enfants. Je voudrais juste que ça finisse le plus tôt possible.
Reportage Fabien Gosset et Farida Noir. Cette nuit, l'aéroport d'Odessa a été frappé par des tirs de missiles. Odessa, la grande ville portuaire d'1 million d'habitants sur la mer Noire, a jusque-là été épargnée. Mais elle reste stratégique pour les forces russes qui aimeraient réaliser la jonction entre le Donbass et la Crimée. Les sports, les supporters du PSG ont chanté à plein poumon. Le virage Auteuil s'est fendu d'un tifo. Mais une telle ambiance n'était pas pour Mbappé et ses collègues, mais pour l'équipe féminine du PSG qui recevait Lyon en demi-finale retour de la Ligue des Champions et qui a été battu 2-1 sur sa pelouse, Jean-Pierre Blimeau.
Le soutien des supporters parisiens n'a pas suffi aux joueuses du PSG. Les Lyonnaises ont obtenu leur ticket pour la finale avec 2 buts de la tête marqués par 2 joueuses de premier plan, Ada Hegerberg et Wendy Renard, avec 2 passes décisives de Selma Bacha.
Très heureuse pour la qualification. Paris, c'est une équipe très dure à jouer, en plus chez elle, avec un super stade magnifique, des supporters aussi top.
En effet, les Parisiennes pourront se dire qu'elles ont attiré une foule considérable au Parc des Princes. 43 254 spectateurs, record absolu en France pour un match féminin entre 2 clubs. Grâce Gayoro, qui a marqué son 28e but de la saison, aurait aimé offrir au public parisien une 3e qualification en finale.
Comme je l'ai dit, aujourd'hui on voulait montrer un très beau visage pour tous les supporters qui nous poussent. J'espère qu'ils vont repartir quand même avec de bons souvenirs.
La saison dernière, les joueuses lyonnaises avaient abandonné leur titre de championne de France et de championne d'Europe. 1 an plus tard, les joueuses de Sonia Bonpastor ont la possibilité de reprendre leurs biens.
On avait en début de saison 3 objectifs. On en a perdu un, malgré tout, la Coupe de France. Aujourd'hui, on est encore en lice sur la Champions League et le championnat, mais on n'a encore rien gagné.
Pour leur 10e finale, les Lyonnaises viseront une 8e Ligue des Champions face à une équipe de Barcelone, tenante du titre.
Et puis, pas de miracle en rugby, ce sont bien les Anglaises qui ont fait le grand chelem dans le tournoi des 6 nations. Elles ont battu les Bleus 24-12.
C'était le journal de Christelle Robière. Le temps.
La météo avec Air France. Cet été, ciel dégagé vers plus de 1000 destinations pour partir en toute sérénité avec Air France. Rendez-vous sur airfrance.fr.
Ce sera généralement un temps sec, Jean-Michel Golinski.
C'est vrai, ce sera le cas sur la plupart des régions ce 1er mai, sous un ciel souvent bien dégagé ce matin, un peu plus voilé cet après-midi, en particulier sur la moitié ouest du pays, avec possiblement le développement d'ondées, notamment sur le Jura et en Rhône-Alpes. Sur la Corse, les averses un peu plus marquées pourront monter à l'orage. Et puis en fin d'après-midi, sur la Bretagne et la Normandie, l'ambiance va se ternir avec à la clé des faibles pluies possible. Les maximales, à peu près dans les normes, vont afficher une quinzaine de degrés cet après-midi près de la Manche. Il fera 16 à Lille, 18 à Tours, Mulhouse et Paris, 20 degrés à Rennes et du Limousin au Lyonnais, 22 à Bordeaux et un maximum de 25 du Golfe du Lion à la basse vallée du Rhône.
Jean-Michel Golinski, Météo France.